Vous écoutez
RMC. RMC. Le ring des GG.
Cette envie de vouloir gagner plus, de s'arrêter jamais. Je pense que Luis Enrique, il est vraiment le coupable de ça.
Tout ce qu'il a accompli, en particulier avec ce club et cette équipe du PSG, on voit clairement sa patte partout. L'identité, la mentalité, la façon dont les joueurs se comportent, leur style de jeu. Oui, ça a été une source d'inspiration.
Je pense que c'est l'un des meilleurs entraîneurs que j'ai eu durant ma carrière. Oh, il m'a beaucoup fait progresser, avec et sans ballon aussi. Des choses tactiques qu'il me donne à chaque fois.
Et lui qui est l'architecte de tout ça avec son staff. Et en l'espace, on va dire, de 2 ans, il a su retourner la table et surtout convaincre même les plus indécis, donc, dont je faisais partie au départ. Oui, pour moi, Luis Enrique a réussi là où beaucoup ont échoué et pourtant ils avaient les mêmes finances.
C'est le plaisir qu'on prend sur le terrain et même pour nous les attaquants, le plaisir qu'on prend à défendre.
L'année dernière, on avait marqué l'histoire clairement, mais il y aura des moments pour parler de les back-to-back-to-back.
Ah, il y aura un moment pour parler du back-to-back-to-back, effectivement, ce sera 11h tout à l'heure. Louis, tu peux nous écouter pour eh bien déterminer ça. Vous avez entendu les joueurs parisiens, Manu Petit, parler de Luis Enrique, le coach espagnol arrivé en 2023, qui est donc allé chercher cette deuxième Ligue des Champions comme entraîneur du PSG, son troisième comme coach dans la plus prestigieuse des Coupes d'Europe. Il égale le nombre de titres remportés sur un banc par Guardiola, Zidane et Bob Paisley, le mythique entraîneur de Liverpool, seul Ancelotti avec ses 5 Ligues des Champions et devant. Les GG, je vous pose cette question. Sur le ring, est-ce que Luis Enrique est déjà l'entraîneur de la décennie? Alors j'ai eu 3 oui francs, je crois.
Oui.
Pascal, Fred et Cédric.
Moi aussi, je suis franc finalement.
Non. Et j'ai eu un homme un peu moins.
Non, mais parce que j'aime pas cette culture de l'instant ou au lendemain de. Bon, ok, je parlerai tout à l'heure. Non, chaque fois qu'il fait des signes, non, je me tais.
Sur le compte X des grandes gueules du sport, vous dites oui à 76%.
Il va quitter le plateau.
Chaque fois que je prends la parole, je me tais.
Tu fais peur à tout le monde.
La susceptibilité est dingue. Hein. Vas-y, je te laisse continuer.
Non, mais c'est bon, j'ai fini.
Non, vas-y, on t'écoute.
T'es boudeur, tu veux
ce genre de débat au lendemain d'une victoire, évidemment tout le monde est dans l'euphorie, c'est le plus grand entraîneur de l'histoire de la Terre, c'est fantastique ce qu'il a fait, il a amené 2 étoiles. Alors évidemment que la trace que va laisser Luis Enrique à Paris, et encore elle est loin d'être terminée, sera immense. Arriver à remporter deux Ligues des Champions, arriver à transformer ce club, à transformer cette équipe, arriver à gagner avec des jeunes joueurs qu'il a presque formaté, exit toutes les stars, c'est magnifique. Mais après, est-ce qu'il est l'entraîneur de la décennie? C'est oublié peut-être. Un Guardiola, ce qu'il a amené au football.
Ah non, mais attention, on parle de la décennie, là, la décennie.
De 2020 à 2029.
Donc,
j'avais posé la question juste avant, voilà. Christophe.
Oui, Guardiola, oui, le Barça, bah, c'était avant. Hein, donc,
mais en fait, à ce moment-là, si on veut être cartésien, ça veut dire qu'à l'instant T, il est à égalité avec Ancelotti. Puisqu'Ancelotti, on a gagné 2
en 2022-2024.
Mais cela dit, moi, ce qui me fait répondre oui, c'est parce que je me projette vers d'autres victoires de Luis Enrique en Champions League avec le Paris Saint-Germain.
Oui, il est sans doute.
Difficile à se projeter, mais malgré tout, je me projette et je me dis qu'il reste plus que 3 ans dans cette décennie. Il reste 2027, 2028, 2029, parce qu'après 2030, par définition, c'est plus la même décennie. Donc ça veut dire qu'il faudrait que quelqu'un gagne 3 titres de suite, parce qu'il faut quand même concurrencer quelqu'un qui vient d'en gagner 2 de suite dans une équipe qui n'avait fait qu'une finale avant, pour pouvoir dire qu'il puisse être meilleur. Donc à partir de là, il a créé quelque chose qui n'existait pas. Ce sentiment de victoire, la capacité depuis le Real 2016 à faire un doublé avec une équipe, et il propose du beau jeu. Bah, je suis désolé, ça va être difficile.
Moi, je dis oui parce qu'il a mis le PSG qui gagnait pas à sa main. C'est-à-dire qu'il a pris les clés, on lui a donné, on lui a laissé, et c'est là où il a réussi à transformer un club. Et pour moi, c'est le
pire
c'est
que
le
plus, ça, Cédric.
C'est pur.
Il a réussi à faire jouer en équipe.
Oui.
Le Paris Saint-Germain. Moi, en équipe. Ça. Et ça, c'est incroyable. Moi, je ne regardais jamais la fin d'un match du Paris Saint-Germain quand c'était les stars. Pourtant, je dois reconnaître que ces stars confirmaient leur statut.
C'est pas le foot.
Mais ils gagnaient, ça, ils gagnaient jamais en Europe. Au bout d'un moment, ils n'existaient pas parce qu'ils défendaient à 7. Okay, Luis Enrique, en 2 ans, il transforme fondamentalement l'esprit du club, le projet sportif du Paris Saint-Germain. Et ça, c'est fort.
Et ça, ce qui est bien, c'est que le PSG a fait confiance à un homme et lui a donné les clés en lui disant « Ok, pour une fois, on s'est trompé avant. » Et là, on te donne les clés. Et c'est là où il est le plus grand, parce que il a pris les clés, il a accepté les contraintes, les difficultés de ce club-là, et gagné, et il y arrive. Et je pense.
Mais c'est
que
le contexte. Je suis d'accord avec toi. Moi, c'est le contexte qui m'impressionne le plus, parce que eh effectivement, oui, tu vas au Real normalement. Je dis bien normalement. C'est plus simple de gagner. Et là, il a créé la culture de la gagne dans un club qui ne l'avait pas du tout. Mmh. Il a réussi à imposer des choses. Et c'est là quand même que du côté du PSG, ils ont été bons aussi. Ils lui ont donné carte blanche.
Mmh. Et c'était la seule solution qu'ils avaient. Ils n'y arrivaient pas. Donc ils ont dit.
Je suis complètement d'accord. Voilà. Il faut l'assumer d'avoir les cartes blanches dans un club qui n'a jamais gagné, qui avait fait une finale juste avant.
Tiens, justement. Grâce sur WhatsApp, me dit. C'est effectivement pas une culture de l'instant, Christophe, parce que Enrique est là depuis 2023 et 3 ans plus tard de Ligue des Champions. Qui a fait ça? Qui a changé une équipe à ce point? C'était inespéré il y a 3 ans quand il est arrivé. C'est vrai que, alors, sur la décennie écoulée, il y a eu Jürgen Klopp, évidemment, avec son Liverpool rock'n'roll. Il y a Guardiola qui a enfin gagné la Ligue des Champions avec Manchester City et qui a effectivement posé son empreinte sur la Première Ligue. Aussi Thomas Tuchel, qui l'a gagné avec Chelsea, qui a fait une finale avec le PSG. Mais en fait, justement, je pense que sur l'impact qu'a eu même Luis Enrique sur le jeu, non mais même sur le jeu football. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a l'impression que même d'autres coachs maintenant s'inspirent d'Enrique comme il y a quelques années on s'inspirait de Guardiola. Regardez le Bayern aujourd'hui. Le Bayern par exemple s'inspire de ce PSG, de faire attention aux égos.
Pascal a raison, il a réussi à faire jouer 11 mecs ensemble, attaque, défense, ce que la plupart des clubs n'arrivent pas à faire.
Et aussi quand tu vois Dembélé qui est Ballon d'Or, qui est souvent remplacé, chaque fois qu'il sort, jamais une fois il fait la gueule.
Il a géré les
épaules. Il va à 1000 à l'heure pour aller rejoindre le banc de touche pour se faire remplacer. C'est quand même symptomatique d'un état d'esprit général.
Surtout, il a perdu son pseudo meilleur joueur quand même. Donc ça veut dire que malgré ça, il a réussi à construire autre chose, une identité complètement qui appartient au PSG maintenant. C'est son bébé. En fait, il a fait de
il ce a fait
club son bébé.
Il a fait comprendre que l'identité du club, le côté institutionnel est plus important que les joueurs. Ça, c'est ça qui est fort de la part de Luis Enrique. L'institution plus fort que le joueur.
Mais l'institution était meilleure aussi. L'institution était meilleure aussi parce qu'ils l'ont soutenu sur ça. Parce que avant, il y avait d'autres coachs qui avaient peut-être cette capacité.
Le cas Mbappé, mais ils ont pas c'est écouté. Là où il
tout le monde est aligné.
Le cas Mbappé, moi, je trouve que c'est incroyable et ça marque à quel point il est puissant.
Il y a dans la série qui suivait Luis Enrique sur sa saison, sa première saison au Paris Saint-Germain. Souvenez-vous de cette séquence qui a fait le tour du monde où il est avec Kylian Mbappé. Il lui dit, tu dois défendre. Michael Jordan défendait, si tu veux être le plus grand tu dois faire ça, regarde ce que tu as fait contre le Barça, c'est catastrophique. Non mais parce qu'en fait dans la construction d'un entraîneur de la décennie et de ce qu'il peut être, il y a aussi les images marquantes qui restent et Luis Enrique il a ça. Christophe, Luis Enrique c'était quelqu'un
vous m'avez convaincu, hein, ça y est c'est bon, hein, j'ai retourné ma veste, je suis d'accord avec vous, mais ce mec a réussi des choses étonnantes avec ce club, mais c'est difficile d'établir un hit parade des entraîneurs, chacun a porté. Je veux dire, Guardiola, il a quand même révolutionné le jeu de Manchester City. Et aujourd'hui, les équipes anglaises se sont adaptées à ce qu'il a créé avec ses équipes.
Ancelotti
avec le Real. Chaque fois qu'il arrive, il gagne. Bon, il a quitté le.
Oui, il est au Brésil. Mais c'est vrai que sur la durée, Ancelotti, c'est incroyable.
Il devient champion. Mais lui, c'est le patron de la Ligue des Champions.
Ce qui est incroyable, en tout cas, c'est cette. Ancelotti, mis à part, cette génération d'entraîneurs espagnols. Il y a une hype autour des entraîneurs espagnols, Pascal, qui est complètement dingue. Arteta,
Xabi Alonso, mais c'est leur modèle de formation quand on prend.
Pourquoi ils sont tous si forts?
Mais pour avoir regardé un peu, Pascal, tu as le droit de me couper si j'ai des conneries. Hein.
Coupe-le, Pascal.
Un entraîneur chez les jeunes, il suit un an, 2 ans, 3 ans, après il revient, il se reforme pour être toujours au goût des nouvelles générations, les meilleurs montrent en réserve, il les forme et après, c'est possible, mais l'identité elle reste toujours là. Et cette formation qu'il y a du football espagnol, il forme des joueurs, mais surtout il forme des entraîneurs. Il les aide à devenir performants en leur donnant des outils. Il y a des coachs, deux coachs. Je suis pas sûr que dans d'autres sports, ça soit aussi poussé que ce que fait le football espagnol.
Au basket
aujourd'hui, espagnol, on parle de Pierre Sage à Liverpool, peut-être. Non, mais
en basket français, juste pour faire la comparaison, en basket espagnol, pardon, pour faire la comparaison, effectivement, il est fort, mais parce que ils leur apprennent tellement d'avoir un QI basket tellement exceptionnel que tu peux passer assez facilement du côté de l'entraîneur parce que t'as tout en main, t'es accompagné effectivement. Et je trouve que sur ça, ils sont plutôt en avance.
Non, mais Luis Enrique, il y a quelque chose aussi dans le management, voilà, vous le disiez, mais l'empreinte qu'il va laisser pour la suite. Je sais pas, on a parlé de l'influence de Cruyff, de Sacchi, de Guardiola. Est-ce qu'on parlera pas dans quelques années de l'influence qu'a eu Luis Enrique, je sais pas, le Luis Enriqueisme, pour eh bien reparler de cette séquence.
Parce que
c'est cette capacité aussi à pas être un dogmatique à mort. C'est-à-dire que il y a des joueurs qui peuvent jouer partout. C'est l'expression finale du football total, en fait. Mmh. Parce que regarde, ils ont gagné de toutes les façons différentes. C'est en dominant, contre le Bayern au match retour, ils sont dominés, ils arrivent à gagner en contre-attaque. Et hier, ils gagnent encore d'une façon différente.
Hier, c'est plutôt c'est du jeu de position contre un mur, c'est pas évident. Pour aller trouver un pénalty, une des rares occasions où la défense a été déstabilisée, c'est de la patience, c'est du travail. Des semaines et des semaines.
Moi j'ai l'impression, Pascal, que tactiquement c'est très fort, évidemment, mais à ce niveau-là, les coachs sont logiquement très forts. Mais je trouve que humainement, ce qu'il apporte à ce groupe, ce qu'il apporte comme fraîcheur, la gestion des égos, t'en parlais tout à l'heure, je trouve que c'est incroyable la gestion des égos.
Il a réussi à mettre l'institution au milieu, le joueur au service de l'équipe et non l'équipe qui
va servir le joueur.
Mais c'est les équipes qui gagnent.
Et aussi la formation du Paris Saint-Germain qui, pendant des années, était négligée alors qu'il y avait des talents. Lui, il les amène continuellement, il les insère au groupe, ça c'est extrêmement important. Et puis comme tu le dis, l'amour qu'il donne à ses joueurs, en fait, il se met à poil devant ses joueurs. Il est avec eux en train de savourer devant le mur des Parisiens et des supporters. Tu sens que c'est pas fin, c'est ce qu'il a au plus profond de son cœur. En tout cas, c'est comme ça qu'on le ressent.
Tu sens qu'il a réussi à rendre ce club populaire, humain, au-delà de Paris et de la région parisienne. Aujourd'hui, une grande partie de la France est supportrice du Paris Saint-Germain. C'est pas gagné. C'est quand même Paris. En France, il y avait toujours cette opposition entre Paris et la province. Aujourd'hui, tu vois des maillots du Paris Saint-Germain un peu partout dans le pays. Même à Marseille, chez les jeunes, il y en a certains qui commencent à porter le maillot du PSG. Ça rend fou les supporters de l'OM. Ça arrive. Et ça, c'est grâce à ce mec-là, parce que il a fait de cette équipe, il a façonné cette équipe. Il a pris des joueurs qui n'étaient pas des méga stars, qui n'étaient pas payés comme des milliardaires. Et il en a fait. Voilà, aujourd'hui,
ils sont quand même bien payés.
L'aspect financier. Les salaires des joueurs du Paris Saint-Germain, même s'ils sont peut-être un peu en dessous de ce qu'ils étaient pour les stars, ils sont conséquents. Mais on n'en parle pas. Parce qu'ils vont au bout des choses sur le terrain.
Regardez Donnarumma qui n'a pas été conservé parce qu'il y avait aussi cette histoire de vouloir être valorisé encore un peu plus. Mais. Effectivement, et d'ailleurs, je vous invite à faire un truc fascinant. C'est remettez-vous la première conférence de presse de Luis Enrique à son arrivée au Paris Saint-Germain. Tout ce qu'il a dit est arrivé sur ce qu'il allait proposer aux supporters, sur ce qu'il allait proposer comme identité.
Dieu sait si je le trouvais insupportable à ses débuts avec le Paris Saint-Germain.
Beaucoup,
tiens, Claude au 32-16 est avec nous. Salut Claude.
Salut, bonjour les
grands games. Bon, ça va. Qu'est-ce que tu en penses de Luis Enrique, l'entraîneur de la décennie? On se pose la question.
Oui, je pense que Thierry Henry a une statue à Highbury. Je pense que Luis Enrique en mérite une au Parc des Princes. C'est pas juste un coach, c'est vraiment un leader, c'est un meneur d'hommes. Et je pense que c'est quelqu'un qui, sur les 10, 20, 30 dernières années, fait partie du top 1 des coachs et des entraîneurs.
Ouais.
Parce que ce mec, il a une vision et il avait dit, si je vous explique, vous ne comprendrez pas. Et aujourd'hui, deux ans après, on comprend que ce mec, il avait un objectif, il savait où il voulait aller. Et aujourd'hui, on voit qu'il avait raison, qu'il savait ce qu'il voulait faire. Et c'est quelqu'un qui a compris le football, le changement du football avant tout le monde. Aujourd'hui, pour gagner, il faut 11 joueurs qui courent, qui jouent les uns pour les autres et qui sont interchangeables. Warren Zaïre-Emery qui peut jouer au milieu, qui peut jouer en latéral. Nuno Mendes qui peut jouer latéral gauche comme ailier. Dembélé qui peut jouer sur le côté comme dans l'axe. Et capable d'accepter ce que le coach propose. Aujourd'hui, au PSG, on a l'impression qu'il y a des joueurs qui ne jouent pas, par exemple. Mais quand on regarde les temps de jeu, il y a quasiment un équilibre.
Ah ben là, surtout cette saison, ils ont bien géré avec la Liga.
Pour faire un parallèle avec ce que j'ai connu avec Guy Noës, et les déclarations des joueurs me font plaisir dans ce sens-là, c'est-à-dire que les joueurs reconnaissent qu'ils ont appris footballistiquement parlant avec Luis Enrique, mais il aura appris à devenir des sportifs de haut niveau, des hommes, des gens qui travaillent, qui se mettent au service. Et ça, c'est la patte d'un entraîneur. Il y a un joueur qui a fait une déclaration en disant « Il est rentré dans ma tête ». C'est exactement ça.
Mmh. Non, mais c'est exactement ça, effectivement. Je remercie Claude au 32-16. Je voulais lire un message de Rémi sur WhatsApp au 06-12-424-424. Pour moi, il y a un événement fondateur avec Enrique dont on ne parle pas assez. C'est quand il a décidé l'année dernière de laisser Dembélé à Paris sur un match important à Arsenal en phase de groupe, bien sûr. Vrai, souvenez-vous, parce qu'il est arrivé en retard. À ce moment-là, il a rappelé que l'institution était plus importante que les stars, quitte à perdre un match important en se passant d'un de ses meilleurs joueurs.
Suivi par le club, c'est ça qui est important.
Oui,
suivi par
le club. Le club a fait le taf aussi.
L'entraîneur Luis Enrique est-il le coach de la décennie déjà? Vous dites oui à 76% sur le compte X des Grandes Gueules du Sport et vous comptez parmi vous les gens du oui. Christophe Cessieux qui a été convaincu par les Grandes Gueules du Sport.
Complètement convaincu.
Bien sûr. Ouais, ça marche à ça parfois, les Grandes Gueules du Sport. On essaie de vous convaincre.
Quel girouette, en fait, Christophe Cessieux.